Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, ici Thème et Anathème. Je reçois aujourd'hui Michel Fréchet qui va nous parler de le diable et le bon Dieu, le saint et le sacré. Alors c'est un thème un peu mystérieux, mais on va expliquer tout ça. Alors bonjour Michel.
Bonjour.
Vous parlez de la fonction désacralisante de la Bible. Ça veut dire que le sacré c'est mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'on a souvent tendance à penser que le sacré c'est quelque chose de bien. Or vous affirmez, ou du moins j'ai cru comprendre, que le sacré c'était mal.
Oui. D'une certaine façon, on peut l'affirmer, du moins c'est ce que je vais affirmer, et voici pour quelle raison. Il me semble que la prédication de Jésus dans l'espace public révèle l'irruption du royaume de Dieu dans sa personne. Or, cette annonce du règne de Dieu stigmatise justement les faux dieux, et plus généralement, tout ce qui, sous couvert de sacré, tient la vérité captive.
Alors concrètement, donc l'irruption du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de sacré.
Non, c'est quelque chose qui relève plutôt de ce qui est saint.
D'accord. Alors on va peut-être d'abord parler, parce que là c'est quand même un peu compliqué pour nos auditeurs, parce qu'on a tendance à penser que Jésus, Dieu, c'est sacré. Alors on va peut-être d'abord parler du sacré. Puisque c'est ce que vous dites, Jésus stigmatise le sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacré?
Eh bien, le sacré, c'est, on pourrait dire que c'est ce qui appartient soit à la sphère du divin, soit à la sphère du démoniaque.
D'accord. Donc là, on retrouve le diable et le bon Dieu.
Voilà. Ce qui est divin ou démoniaque, c'est ce qui est plus qu'humain et qui exige de l'homme un respect immédiat, ou une exécration radicale.
Alors, exécration, donc un rejet.
Un rejet.
D'accord. Et alors, pourquoi il faut rejeter le sacré? Pourquoi?
Le sacré, il faut le rejeter parce que, précisément, c'est une façon de mettre la main sur Dieu.
D'accord. Et comment on met la main sur Dieu, alors?
Eh bien, en essayant de se l'approprier.
Ouais.
En le sacralisant, précisément. Sacralisant des objets, on sacralise
des rites.
Bien sûr, il y a les rites sacrés.
Ouais.
C'est une manière finalement de se mettre. On voudrait mettre, comment dire, la main sur Dieu pour se protéger finalement d'une certaine façon.
Mais c'est ce qu'on fait toujours les religions, si.
Mais précisément.
Oui.
Je suis tout à fait de cet avis.
Et donc Jésus annonce la fin des religions.
D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Alors, il faut encore s'entendre là-dessus.
Oui.
Mais toutes les religions, tous les hommes d'ailleurs,
ouais,
même peut-être celui qui vous parle à l'instant,
ouais,
et manipulent quelquefois le sacré.
Par exemple.
Ben, on a chacun nos petits jardins d'un secret sacré.
Ouais. Secret, sacré. D'accord. OK. Donc, le sacré, c'est une sphère.
C'est une sphère par laquelle, encore une fois, on veut mettre la main sur le divin.
Ouais.
Ou au contraire, se protéger du démoniaque. Voilà. C'est.
Alors, les moyens de se protéger du démoniaque, on l'a vu, enfin, les moyens de se protéger, c'est les rites, en fait. Alors, dans l'Ancien Testament, enfin, dans la Première Alliance, il y a plein de rites.
Oui, il y a des rites sacrés.
Oui.
Encore, oui, c'est sûr. Oui, oui. Mais, finalement, on s'aperçoit que, sous la prédication des prophètes, par exemple, déjà, il y a une désacralisation des rites.
Oui.
On le voit par exemple avec, par exemple, l'histoire du veau d'or,
oui,
dans la Bible.
D'accord.
Hein? Dieu, on voudrait mettre la main sur Dieu, donc on se fabrique un Dieu, le veau d'or.
Oui, alors je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est que Moïse étant absent, les Israélites en profitent pour faire un veau d'or, en or, donc pour fondre et faire une statue comme les dieux païens qui les entouraient.
Et du coup, il y a un culte
Ouais.
du veau d'or.
Oui.
Un culte.
Ouais.
Parce qu'on met sa confiance dans cet objet qu'on a créé.
Et alors
Donc,
Moïse n'est pas content.
ah ben, pas du tout.
Oui. Et alors qu'est-ce qu'il fait?
Eh bien, il redescend avec les tables de la loi, sur lesquelles étaient inscrites donc les commandements divins.
Oui, les 10
Et
commandements, on
oui,
connaît.
et il est tellement découragé qu'il va briser les tables de la loi.
C'est-à-dire que là, le sacré a même déstabilisé Moïse et l'alliance, si Moïse brise les tables de la loi.
Oui, d'une certaine façon, on peut dire.
Ouais. Donc le sacré, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Dès le...
À mon sens, très dangereux.
Oui?
Très dangereux. Mais c'est pour ça qu'il y a l'Évangile, on peut inventer toutes les religions du monde.
Ouais.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Hein? Toutes les religions du monde. Il y a une chose qu'on ne peut pas inventer, c'est l'Évangile.
Et alors l'évangile, on va y venir. Comment il désacralise finalement?
Bien, il désacralise. Je vais prendre un exemple très simple.
Ouais.
Au fond, au centre de la vie d'Israël, il y avait le sabbat. Or, le sabbat,
Alors le sabbat, est-ce que vous pouvez expliquer un petit
le
peu pour
sabbat,
nos
c'est donc
auditeurs?
le jour, le septième jour de la création, d'après la Bible, mais évidemment, ce sont des métaphores, mais qui signifie quelque chose d'important. Le sabbat, c'est le jour mis à part
Ouais.
pour célébrer Dieu
Oui.
pour toutes ses actions, sa création, etc. Pour Dieu. Or, Jésus, ce jour-là,
Ouais.
donc, est interdit de rien faire d'autre que, bon, en principe, célébrer Dieu.
Oui.
Or, Jésus opère beaucoup d'actions le jour du sabbat qui étaient interdites par la
Oui.
loi.
Il
Par exemple,
sauve. Oui.
la guérison des malades, il
Oui.
sauve. Et là-dessus, il est attaqué par les pharisiens, c'est-à-dire la secte religieuse. Il est attaqué aussi par tous ces chefs religieux, précisément.
Oui, il faut
Entre...
rappeler que effectivement Jésus est en butte à la religion.
Exactement.
Voilà.
Et donc, il piétine en quelque sorte le sabbat.
Ouais. Qui
Et
était un
donc,
commandement divin.
qui demeure un demandement pour restituer justement la véritable signification du
Ouais.
sabbat.
Ouais.
Là, donc, il y a un renversement complet. Il y avait une mauvaise compréhension du sabbat qui est mise à part pour rendre un culte à Dieu. Et au lieu de cela, les pharisiens et les religieux, d'une manière générale, condamnent Jésus pour cela. D'ailleurs, petit à petit, c'est ce qui va le conduire à être condamné à mort. Hein.
Oui, c'est là. En fait, c'est le sacré qui va, le non-respect par Jésus du sacré qui va le conduire
Et
à la
précisément
mort.
la mort.
D'accord. Alors, le sacré, pourtant, donc ça apparaît très tôt. Certains disent que la religion est basée sur le sacré dans le sens où les hommes ont sacralisé les choses pour se protéger des forces naturelles,
Tout à fait.
des ouragans,
Tout à fait.
Des choses comme ça. Et est-ce que, bon, vous parliez des prophètes, donc les prophètes ont, donc il y a déjà Moïse qui refuse le sacré, et les prophètes ont continué à désacraliser.
Bien sûr, les fameuses divinités de l'époque, c'était les Baals,
Oui?
c'est-à-dire ces divinités de la nature. Chaque lieu avait son Baal, telle montagne, chaque rivière avait son Baal, son dieu. Et on se courbait devant ces divinités. Mais par contre, les prophètes condamnent violemment, il faut se souvenir de, par exemple, le combat du prophète Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, de
Oui.
l'Ancienne Alliance, contre ces fameux cultes naturels, au fond de la nature.
D'accord. Donc déjà,
Oui. Ah oui.
effectivement, l'entreprise de Moïse de désacraliser se
Se
poursuit tout
poursuit.
au long de l'histoire d'Israël.
Et de plus en plus, et alors le nouveau Jésus lui-même, alors c'est encore, je dirais, beaucoup plus loin encore.
Oui,
Beaucoup.
d'accord. D'accord. Alors après, on va mettre
En parallèle en
en
plus.
parallèle avec le saint, mais d'abord, on va faire une pause musicale et vous nous avez choisi un morceau de musique de Bach, Que ma joie demeure. Alors, on retrouve Michel Fréchet pour Le diable et le bon Dieu, le sacré et le saint. Alors, nous venons de voir ce qu'était le sacré, ce qui était la base de pratiquement le fondement des religions, cette idée de se concilier Dieu, cette idée de, ou les dieux, cette idée de se mettre les forces de la nature de son côté. Et pourquoi on a fait cette émission? Bien parce qu'il y a une confusion souvent entre le saint et le sacré. Et le but de cette émission, c'est de bien définir donc la différence entre le saint et le sacré. Alors maintenant, on peut peut-être définir un petit peu le mot saint. Oui. Alors il a une, oui, une signification complètement différente.
À mon sens, oui. Au fond, le saint, ce qui est saint, ce qui est, sont deux réalités vraiment antinomiques. Le saint exprime au fond une relation entre un je et un tu, entre celui qui appelle et celui qui est l'objet de cet appel.
Entre deux personnes.
Entre deux personnes. C'est comme le, on peut dire que le peuple d'Israël est saint dans la mesure où Dieu se tourne vers lui, le nomme, le saisit par son esprit, en somme, le sanctifie. Il est saint de, ouais, parce qu'il appartient à Dieu et non parce que Dieu lui appartient et qu'il aurait des droits sur Dieu.
Alors là, c'est effectivement cette notion que l'homme appartient à Dieu et non plus Dieu appartient aux hommes. C'est un renversement du sacré ou c'était plutôt l'inverse. Dans le sacré, on essayait
de mettre la main sur
de
Dieu.
De mettre la main sur Dieu.
Et oui.
C'est d'accord. Ça.
Et là, c'est Dieu qui met la main sur nous.
Alors, je suis sûre que la plupart de nos auditeurs et moi la première n'avaient pas forcément bien saisi que c'était complètement antinomique.
Oui. À mes yeux, complètement.
D'accord. Et alors, vous pouvez nous dire, donc, là, vous nous avez dit une relation entre deux personnes. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner, vous avez parlé du peuple d'Israël.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres, exemples?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, quand même, la Bible opère ici un renversement complet.
Oui.
Et on peut dire qu'au fond, c'est la plus formidable entreprise de désacralisation. Et là, il y a un moment dans l'histoire de l'Évangile qui est fondamental, qui paraît être un détail, mais qui en fait ne l'est pas. Mmh. C'est qu'au moment même où Jésus expire sur la croix,
oui,
le voile du temple de Jérusalem se déchire de haut en bas. Ce voile qui justement séparait le lieu saint du lieu très saint, ce lieu très saint, c'est-à-dire dans lequel le grand prêtre entrait une fois par an pour accomplir des sacrifices d'animaux, pour expier les péchés du peuple d'Israël.
Donc là, c'était un rite sacré. Voilà.
C'était un rite sacré. Or, au moment même où Jésus expire sur la croix, le voile se déchire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition entre ce qui est... on pourrait dire le sacré et le profane, finalement, c'est toute la terre qui va être appelée à être soumise, placée sous le signe de la puissance de l'Esprit Saint.
Oui, parce que donc le temple, c'était pour vous le sacré. Or, on pourrait dire quand même que le temple de Jérusalem, le Saint des Saints, il n'y avait rien dedans. Donc, c'était pas du sacré, ça.
C'était pas du sacré. C'était quand même, à partir de ce moment, je veux dire, de vraiment crucial, c'est le mot qu'a le dit, hein, de,
oui,
la mort de Jésus sur la croix, précédé, c'est la fin des rites sacrés.
D'accord.
Et avant, c'était bien quand même un rite sacré, puisque par ce rite, on expiait les péchés.
Oui.
Mais c'est finalement la mort du Christ qui expie les péchés.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur le Saint des Saints, parce que là, il y a les deux choses. Donc, on l'appelle le Saint des Saints, donc la mise à part du peuple d'Israël. Et en fait, il y avait, oui, du sacré dedans, même si c'était vide. C'est-à-dire que le,
oui,
sacré...
Oui, c'est-à-dire que ça a été sacralisé.
D'accord.
C'était pas du tout, je pense, l'idée première, naturellement.
Ah oui.
Le lieu saint, c'était pour sanctifier le nom du Seigneur. Mais finalement, petit à petit, très vite, on rentre dans des rites sacrés par lesquels, finalement, on a des prétentions sur Dieu, etc.
Oui, parce que, en fait, c'est la nature humaine, quoi, quelque part, qui reprend le dessus, si je comprends bien.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même moi qui vous parle, Moi-même, je sais bien que, au fond, je trafique un petit peu avec le
D'accord.
Si j'ose dire.
C'est okay.
Un peu trivial,
là,
c'est ça que je veux dire.
Oui, c'est intéressant parce que j'avais jamais pensé que on pouvait sacraliser le rien, puisque le Saint des Saints, c'était rien. Et alors, ça veut dire que le sacré s'insinue partout, quoi.
Partout, parfaitement. Et c'est pourquoi la fonction de l'Église ne devrait être autre qu'une fonction désacralisante, finalement. Oui. Et qu'elle doit veiller, c'est sa vigilance là qui est en cause.
Ouais.
Elle doit veiller à ce que le sacré ne prenne pas le dessus. Or, c'est justement le sacré qui prend toujours le dessus dans notre société.
Oui.
Et je peux citer là une multitude d'exemples.
On va voir un petit peu la société par rapport au sacré, mais je voudrais que pour le moment on reste un petit peu sur l'homme.
Oui.
Et alors comment finalement, quand je vous écoute, je me dis comment se débarrasser du sacré? Comment, c'est peut-être pas simple comme question, mais...
Eh bien, c'est-à-dire que je crois qu'il faut se souvenir qu'il y a un événement aussi capital qu'au lendemain de la mort de Jésus, ça passe quelque chose quand même.
Oui, c'est cette déchirure du voile qui
qui ouvre quelque chose, qui va se passer 10 jours après.
Ouais.
C'est l'événement de Pentecôte.
Alors, parlez-nous-en. Et d'abord, ben, Pentecôte, qu'est-ce que c'est? D'abord,
ben,
on va redéfinir.
C'est donc, on peut dire d'un mot, la descente de l'Esprit Saint sur les disciples qui n'avaient rien compris jusque-là, au fond, du ministère de Jésus.
Est-ce qu'ils voyaient du sacré, selon vous, les apôtres? Est-ce qu'ils voyaient du sacré?
Bien sûr, ils ne pouvaient, oui, bien sûr.
Ouais.
Et ils n'ont rien compris, au fond, au sens du ministère de Jésus. Ils étaient quand même subjugués, naturellement, par ses paroles, par ses actes, mais au fond, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était, au fond, qui s'avançait vers
un terrain inconnu.
Oui, qui allait aboutir à sa mort finalement.
Oui.
Et pour eux, la mort de Jésus, de leur maître,
ouais,
signifiait, au fond, on peut dire, l'échec du ministère
l'échec,
de Jésus.
L'échec. Alors, on revient à la Pentecôte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut dire, on connaît l'histoire avec le Saint-Esprit qui descend, les langues de feu.
Oui, mais ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas l'homme qui va mettre la main sur le divin.
Ah oui.
C'est l'Esprit-Saint qui va prendre possession de ces hommes.
Parce que,
qui vont les transformer.
Ouais.
Ces gens qui étaient complètement abattus au lendemain de la mort de Jésus sont transformés. Et repartent fortifiés par la puissance du Saint-Esprit pour annoncer et proclamer l'Évangile.
Alors, c'est
il y a un retournement complet.
Ouais.
Une métamorphose de ces hommes, on pourrait dire,
ouais,
au sens fort du terme. Ils sont transformés de l'intérieur par la puissance de l'Esprit.
Ouais. C'est intéressant parce que on pourrait dire en première lecture que d'avoir des flammes qui descendent sur la tête, ça fait quand même quelque chose de sacré. Enfin, on a envie de sacraliser l'événement. D'ailleurs, l'Église a sacralisé l'événement. On va y venir. En tant qu'être humain, moi, je sais que si j'avais une flamme qui me descend sur la tête, j'aurais tendance à sacraliser la chose. Et en fait, non.
Et non. C'est le contraire. Et oui. Parce que vous ne pouvez pas saisir les flammes de feu. C'est les flammes de feu qui...
Ah oui, d'accord. Oui, c'est parce qu'effectivement, moi, je ne peux pas, l'homme ne peut pas le faire.
Et non. L'Esprit Saint, on ne sait pas d'où il vient. C'est l'Esprit de Dieu qui descend.
Oui.
Et qui prend possession de l'être humain à ce moment-là.
D'accord.
Et qui le sanctifie, justement.
D'accord. Oui, c'est...
On ne peut pas se sanctifier soi-même.
Ouais.
Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint.
D'accord. Alors,
qui change les cœurs, qui change la vision des choses, qui nous transforme, qui nous métamorphose encore une fois.
D'accord. Alors, deux grosses entreprises de désacralisation dans la Bible, la mort de Jésus et Pentecôte. Mais auparavant, toute la prédication de Jésus, c'est aussi une entreprise de désacralisation.
Ah ben oui.
Donc, on a vu la guérison ou le fait de nourrir les disciples lors du sabbat, tout simplement parce qu'ils ont faim, et que Jésus a faim, donc il mange. Est-ce que vous avez d'autres exemples de désacralisation par rapport à Jésus? Est-ce que toute sa prédication...
Mais sa prédication, elle désacralise, parce que il fait appel finalement à la sainteté de Dieu.
Ouais.
Lui seul est saint, vraiment.
Ouais. Donc c'est le saint qui chasse le sacré.
Bah, bien sûr.
D'accord. D'accord.
Mais le saint, c'est-à-dire Dieu, en l'occurrence.
Oui, oui.
Parce qu'on peut dire, seul Dieu est véritablement saint.
Oui. D'accord.
Mais alors, on l'appelle à être sanctifié, donc à devenir aussi des saints, dans le sens des gens qui sont mis à part pour lui rendre ce culte.
D'accord. Alors, on va voir après comment devenir sanctifié. Mais là, on va faire une seconde pause musicale pour peut-être pour digérer un peu tout ça, parce que ce sont quand même des notions assez compliquées. Moi, je viens d'en apprendre beaucoup là dans ces quelques minutes où on parle, même si j'avais lu ce que vous avez écrit là-dessus. Mais c'est vrai que ça éclaire pas mal ces notions. Alors, comme morceau de musique, je vous ai choisi quelque chose de très différent de Bach. C'est un morceau du groupe Normandie que les auditeurs vont finir par savoir que j'aime beaucoup. C'est un groupe de rock actuel suédois. Et je vous propose le morceau Ritual. My mind feels sane, but my heart's playing tricks on me. One touch and I fall right in, I will never be the same. No, no lines, no blame. I need you to set me free. Free words and I'm caving in. I've been going up in flames. Think you got me in a deadlock, but I've already given up. I've been dying for a night like this, and I would give my life to stay like this. So if you gotta make me fall, then you better do it hard. Like you and I, retrouvons Michel Fréchet dans Thème et Anathème, toujours sur le diable et le bon Dieu, le saint et le sacré. Alors, je rappelle, hein, on a vu ce qu'était le sacré, l'entreprise finalement des hommes de se saisir de Dieu, de mettre Dieu de son côté, de le posséder. Et puis, Michel, vous nous avez dit que le mot saint ben, c'était vraiment le contraire, que c'était une relation entre deux personnes, et puis que c'était Dieu qui nous possède et non pas nous qui possédons Dieu. On a vu donc, pour résumer un petit peu, que toute l'œuvre de Jésus avait été de désacraliser le sabbat, et puis par sa mort, le voile du temple qui se déchire et qui enlève, en quelque sorte, qui chasse le sacré. Et Pentecôte. Alors maintenant, vous avez parlé donc que finalement le but de l'homme par la prédication de Jésus, c'est de devenir sanctifié. Alors, qu'est-ce que c'est que devenir sanctifié? Comment on peut devenir sanctifié?
Eh bien, il faut se laisser saisir par l'Esprit Saint.
Oui.
Et on ne peut que implorer, appeler l'Esprit Saint sur nous-mêmes. Mais c'est une puissance qui vient d'en haut, dont nous ne sommes pas maîtres. Mais si nous suivons le Christ et que nous écoutons sa voix, ses paroles, on voit bien que tout cela va changer notre regard et notre compréhension finalement de notre vocation sur cette terre.
D'accord, c'est-à-dire que en fait, on n'a pas à travailler à devenir sanctifié. C'est pas par notre...
Non, mais nous avons à nous approcher du Christ et à nous laisser, comment dire, enseigner d'abord par sa prédication,
oui,
par son message,
oui,
en sachant que c'est son Esprit Saint, l'Esprit, la puissance de l'Esprit Saint qui va, lui, nous transformer dans la mesure où nous serons sur les pas de Jésus.
D'accord. C'est-à-dire se laisser entraîner, se laisser entraîner par Jésus.
Oui, oui.
Mais ça, c'est un peu... Enfin, on retrouve le message de la réforme.
Tout à fait.
C'est-à-dire, oui, c'est pas nos œuvres qui...
Oui.
On pourrait presque dire, si je me permets, mais vous allez me dire si j'ai tort, que finalement, l'idée de se dire qu'on mérite le paradis, qu'on fait des œuvres, c'est du sacré, ça, d'une certaine façon.
Tout à fait. Oui, on peut le dire. On ne mérite rien du tout.
Ouais.
Nous sommes tous indignes et tous pécheurs, mais Dieu exècre
ouais,
le péché, mais il aime le pécheur.
D'accord, oui, ça c'est un message biblique.
Oui, oui, et c'est, sauf erreur, le philosophe Kierkegaard qui le disait, je crois avec raison.
D'accord. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la société. Alors, il y a un thème qui est revenu donc depuis Max Weber en 1917 qui parle de désenchantement du monde, c'est-à-dire de désacralisation et du recul des religions. Mais, alors, vous allez nous dire ce que vous pensez de la chose. Mais ce que je voudrais qu'on discute, c'est que notre société qui est dite laïque, enfin, au moins en France, et en fait en plein dans le sacré. Et on pourra voir dans quel domaine. Mais alors, Max Weber, le désenchantement du monde et le recul des religions, vous n'êtes pas foncièrement d'accord?
Pas forcément le recul des religions, parce que la religion revient en force.
Oui, alors effectivement.
Alors, le religieux, parce que finalement, même ceux qui sont les plus hostiles, ils ont leur propre religion. Il y a un culte, par exemple, sur le plan politique.
Oui.
Il y a le culte du chef.
Oui.
Mais c'est un culte.
Bien sûr, bien sûr.
On l'a bien vu, malheureusement, dans les régimes totalitaires, ce que ça représente.
Oui.
Et donc, c'est bien du religieux, finalement, d'une certaine façon.
Oui, 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 ah ben, absolument. Oui, oui, oui.
Enfin,
oui,
une certaine forme de religion. Mais au fond, c'est le même mode de pensée, finalement.
Oui.
Oui.
En France notamment, alors je sais qu'il y a d'autres pays effectivement plus totalitaires, hein, mais en France on a toujours aimé le chef depuis Napoléon.
Oui, à travers les siècles, mais je pense que c'est à travers toutes les civilisations.
Oui, oui.
Vous avez ça, et on le voit bien, la politique c'est une activité noble en son principe, puisque c'est le souci de la cité, le bien-être, les bonnes relations. Bon, mais cette politique est souvent déformée et que finalement, on voit l'arrivée finalement de monstres sacrés qui déforment complètement.
Bah, les monstres sacrés, on les voit partout.
On les voit partout.
Surtout voit partout. À notre époque de multi-communication, etc.
Oui. Mais c'est la sacralisation du pouvoir.
Oui. Et bon, alors ne parlons pas de l'argent, parce que ça, c'est...
On pourrait parler de l'argent, naturellement, qui est dénoncé par Jésus avec force. Même vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon.
Oui, alors Mammon, c'était...
C'était la puissance qui représentait les richesses matérielles, on pourrait dire en gros.
Oui. Et puis, vous avez aussi les idéologies. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Eh bien, vous avez... Parlons de la laïcité, par exemple.
Oui.
Qui est une belle chose.
Oui.
Mais elle se trouve menacée à la fois par le cléricalisme...
Oui.
D'un côté, et d'autre part, elle est menacée par le laïcisme, finalement.
Oui.
C'est aussi une forme de religion, de certaine façon.
Oui, tout à fait. Et puis, vous avez les lieux sacrés, par exemple.
Alors, il y a les lieux sacrés, on en parlait tout à l'heure, par exemple de la nature.
Oui.
On en disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des transformes, il peut y avoir un éco-totalitarisme.
Oui.
On parle de l'écologie.
Oui.
Mais vous voyez, il y a aussi une espèce d'idéologie de l'écologie, que j'aime beaucoup le principe.
Oui, bien sûr.
Mais en même temps, il y a un danger.
Oui.
C'est une espèce de sacralisation de la nature.
Oui, d'accord. Et toutes les idéologies, disons, modernes, la bioéthique...
Pareil, la bioéthique, pareil, c'est pas... La vie, je dirais que la vie, il faut la respecter et la protéger de toutes ses forces. Mais la vie n'est pas sacrée.
Ouais. La vie n'est pas sacrée. Alors...
Alors ça, je sais que ça va faire bondir de dire ça, mais comprenons-nous bien... La vie, au fond, d'une certaine façon, elle ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous la donne, c'est un don de Dieu.
Oui.
Et nous devons la recevoir comme telle. Mais si nous la sacralisons, nous voyons aussi, par exemple, je vais prendre un exemple, toutes les recherches scientifiques qui sont faites dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle qui risque de nous faire passer, disons... prolonger la vie sur, mettons, à 150 ans au lieu de
60
ans. Et alors, là, dire, on n'est pas maître de la vie.
Bien sûr.
On mourra.
Alors finalement on va s'arrêter là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais finalement, il n'y a plus rien de sacré. Enfin, il y a encore tout de sacré, mais le vrai chrétien ne devrait avoir rien de sacré, d'avoir toujours cette distance par rapport au sacré.
Mais la Bible peut être sacralisée aussi, oui.
Voilà.
La Bible est sacralisée, et ça, c'est très dangereux, parce que vous tombez dans un espèce de fondamentalisme scripturaire où finalement... c'est une manière de mettre la main sur le divin encore.
D'accord. Alors on va s'arrêter là, puisque maintenant, malheureusement, c'est l'heure. Mais j'espère que nos auditeurs auront apprécié cette entreprise de désacralisation que vous avez menée, Michel Fréchet. Et je remercie nos auditeurs de leur fidélité. À bientôt.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.